Vous écoutez
RMC.
Apolline de Malherbe.
Il est presque 6h30, presque 6h30 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous. C'est l'heure non seulement de nous écouter à la radio, mais aussi de nous regarder à la télé. Vous pouvez allumer le canal 23 RMC Story. On est ensemble jusqu'à 9h. Vous verrez sur ce plateau Nicolas Poincaré. Bonjour, bonjour Nicolas. Quentin Vinet.
Bonjour Apolline.
Et puis, il y a Anthony Kaczmarek qui nous accompagne pour la météo toute la semaine. Bonjour Anthony. Bonjour. Dans un instant, Charles et Emmanuel Le Chypre. Et vous que j'attends au 32-16. Vous êtes chez vous, vous le savez, sur RMC. Et on parle notamment de cette question du trafic de drogue. 3 morts en 24 heures à Marseille. En 24 heures, 3 morts dans des règlements de compte de trafic de drogue. Toute la France est désormais touchée par ces trafics. Les grandes villes, les villes moyennes et même les zones rurales. Alors, une question à la une qui revient régulièrement, mais qui cette fois-ci revient en force. Faudrait-il légaliser la consommation de cannabis pour sortir la vente de cannabis de l'illégalité, de la clandestinité et des trafics? Est-ce la solution? Je vous attends au 32-16 pour venir en débattre avec nous. Et puis, sur l'aspect sécurité, lutte contre le trafic de drogue, ne manquez pas le commissaire David Lebars qui sera avec nous en direct à 8h10 et vous pourrez d'ailleurs l'interpeller. Et puis, notez dès à présent deux rendez-vous dans la matinale. L'invité de 7h40, invité exceptionnel ce matin, ce sera la professeure Brigitte Autran. C'est la nouvelle Jean-François Delfraissy. Vous vous souvenez du professeur Delfraissy, le président du conseil scientifique? Eh bien, c'est elle qui a pris sa succession. Elle est désormais présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Elle fera le point avec nous en direct à 7h40. Et puis notez également à 8h30 l'invité politique. Ce sera Marine Le Pen et ça se passe sur RMC et BFM TV. La météo, Anthony, et c'est une journée ensoleillée.
Avec évidemment d'abord des brouillards ce matin. Comme hier, brouillard, nuages bas, grisailles sur quasiment tout le pays, sauf dans l'extrême sud, et il devrait, ces brouillards, rapidement se dissiper, en tout cas plus rapidement qu'hier, pour laisser la place à du soleil sur quasiment tout le pays, sauf près de la Manche et dans le Val-de-Saône. Les températures fraîches encore ce matin, mais très grande douceur dans l'après-midi, souvent plus de 20 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 25-26 dans le sud, 26 pour Bordeaux et Toulouse, 23 degrés à Limoges, 22 à Paris et 20 degrés à Lille.
RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Il est 6h30 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous. Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline. Bonjour à tous. La ruée sur les chauffages d'appoint, vente qui double ou qui triple pour éviter d'allumer les radiateurs et tenter de limiter la consommation d'énergie. Les dirigeants des EHPAD qui se mobilisent aujourd'hui pour demander une loi sur le grand âge plutôt qu'une réforme des retraites. Et l'imam IQSEM qui ne veut pas être un trophée médiatique. C'est ce qu'il dit. Il s'oppose à son renvoi en France et veut rester en Belgique.
Les Français se tournent donc de plus en plus vers les chauffages d'appoint.
Vente multipliée, oui, par deux ou par trois dans les magasins où c'est rendu RMC. Hein, des chauffages qui sont perçus comme une solution face à la hausse des prix du gaz, de l'électricité, du pétrole, du fioul également. L'idée, en fait, c'est de ne pas allumer les radiateurs, pas les allumer toute la journée, mais de chauffer à la demande avec des chauffages d'appoint. La preuve dans ce magasin de bricolage à Château-Thierry, c'est dans l'Aisne avec Tanguy Roman Clavelou pour RMC.
C'est donc l'un des rayons les plus populaires du magasin, celui des chauffages d'appoint. Parmi les clients, Christophe.
Quand je rentre, j'utilise une à deux heures occasionnellement, juste pour réchauffer un peu les pièces. J'ai changé à cause du prix du fioul. Maintenant, c'est 1700 euros les 1000 litres, donc ça devient compliqué.
Des chauffages d'appoint qui s'arrachent jusqu'à 50% de ventes supplémentaires par rapport au mois de septembre de l'an dernier. Radiateurs électriques et poêle à pétrole en tête. L'objectif, réguler son chauffage pour faire des économies, selon Arnaud Delpierre, directeur du magasin.
Ils veulent chauffer que les pièces où il y aura besoin. Et le deuxième effet, c'est aussi de chercher des modes de chauffage qui sont alternatifs à l'électricité dans les risques de potentiel de coupure de cet hiver.
Le prix de ces équipements dépasse rarement les 80 euros. Un bon plan à première vue, mais pas pour Marc Gédliska, porte-parole de l'association Négawatt.
Malheureusement, c'est une fausse bonne idée. Il faut travailler d'abord sur l'enveloppe du logement pour que la chaleur qu'il y a dedans reste à l'intérieur. Ce type d'équipement dans une passoire thermique, c'est vraiment une catastrophe. Ça chauffe pas, ça coûte cher et ça pollue la planète en même temps.
Selon lui, cette hausse des ventes est un signe du manque d'accompagnement et de conseils des consommateurs.
Climat électrique hier soir à l'Assemblée nationale pour la reprise des travaux avec l'examen de la réforme de l'assurance chômage. Nécessité, répète le gouvernement, mais pas une priorité, dit l'opposition. Il y avait un absent d'ailleurs hier dans l'hémicycle, un absent notable, Adrien Quatennens, désormais visé par une plainte par son épouse avec qui il est en cours de séparation. Il restera en retrait le temps qu'il faudra. Voilà ce qu'expliquent les insoumis dans sa circonscription de Lille. Certains électeurs se demandent s'il a encore sa place à l'Assemblée. Écoutez avec Martin Cadoret pour RMC.
Entre les maisons en briques rouges du quartier populaire Moulin, Tommy, 29 ans, pousse un soupir quand on l'interroge sur Adrien Quatennens, pour qui il avait glissé un bulletin dans l'urne.
Franchement, ça donne plus envie de voter, en fait. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. C'est les partis sur lesquels, nous, en tout cas, dans des quartiers comme ça, on met nos espoirs là-dessus. Oui, il y a de la déception, oui.
Sa mise en retrait ne suffit donc pas pour Nathalie, fervente féministe et électrice déçue.
Moi, je serai pour sa démission, même si, voilà, ça reste un bon député.
Direction, la permanence du député. Lui n'est pas là, mais ses collaborateurs sont au travail. L'un d'entre eux nous jure qu'on ne lui parle pas que de l'affaire Quatennens sur les marchés, mais surtout de l'inflation. Et de fait, une partie de son électorat populaire soutient toujours le député. C'est le cas d'Assia.
Pour moi, il ne devrait pas démissionner. C'est un bon député, j'ai voté pour lui. Et tout mon quartier, en fait, ont voté pour lui. Non, franchement, c'est un bon député. Et il nous écoute. Il ne snob pas les gens du quartier. Il parle avec tout le monde.
Assia, qui est favorable à une petite sanction, dit-elle, pourquoi pas un retrait de l'Assemblée pour quelques semaines.
Les syndicats sont finalement d'accord pour participer à la concertation du gouvernement avant le chantier des retraites prévu en début d'année prochaine, en promettant les syndicats la riposte si le projet touche à l'âge légal de départ ou à la durée de cotisation. Dans ce contexte, les vieux méritent mieux. C'est le slogan des directeurs d'EHPAD qui se mobilisent aujourd'hui, appellent au rassemblement cet après-midi. Pourquoi ? Pour réclamer une loi sur le grand âge plutôt qu'une réforme des retraites. Annabelle Vesque, la directrice, est côté de ce syndicat.
C'est un quart des EHPAD aujourd'hui qui gèlent des entrées, qui ferment des lits par manque de personnel pour pouvoir continuer d'accompagner dignement les personnes âgées. À domicile, c'est un tiers des services à domicile qui nous disent ne pas pouvoir honorer le nombre d'heures qu'ils devraient normalement donner aux personnes qu'ils accompagnent. Donc aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme parce que nos concitoyens vieillissent et parce qu'il est temps d'agir et de faire enfin une loi grand âge.
Il est 6h34 sur RMC. Il y a du nouveau ce matin dans l'affaire Iqiyoussen, l'imam arrêté en Belgique vendredi dernier, qui s'oppose à son renvoi en France où il est mis en cause pour ses propos antisémites et hostiles aux femmes. C'est son avocate qui a pris la parole hier pour dire que l'imam faisait confiance à la justice belge pour ne pas céder, dit-il, aux pressions, selon lui, de la France. Marion Dubreuil.
Oui, maître Lucie Simon conteste la validité du mandat européen qui vise Hassan Iqiyoussen et qui est à l'origine de son arrestation en Belgique. Elle estime que l'infraction de soustraction à une mesure d'éloignement qui est reprochée à son client n'est pas caractérisée, étant donné que Hassan Iqiyoussen a quitté le territoire français de lui-même. Elle dénonce un exécutif français avide d'un trophée médiatique pour servir, je cite, un agenda législatif funeste. Pour le moment, l'imam est en détention en Belgique, dans l'attente d'une audience devant la Chambre du Conseil de Mons, mardi prochain. Cette juridiction belge aura la possibilité de confirmer la procédure et donc acter le départ de Hassan Iqiyoussen vers la France ou bien le remettre en liberté.
Un policier sera jugé aux assises de Reims à partir de ce matin, 6 ans après des échauffourées, après un match de foot entre Reims et Bastia. Les célébrations avaient complètement dégénéré et ce policier est accusé d'avoir éborgné un supporter corse victime d'un coup de matraque. Ce sont les conclusions de l'enquête de la police des polices. Maxime, ce supporter, aujourd'hui âgé de 28 ans, témoigne ce matin au micro de RMC.
À la fin du match, on est pris à partie par une équipe de la BAC. La situation dégénère, si bien qu'on se retrouve dans un véritable guet-apens. Ce soir-là, ils nous ont bien fait comprendre qu'ils voulaient se faire le Bastier, pour le dire un peu singulièrement. J'ai perdu un œil, il y a quelqu'un qui me l'a volontairement fait perdre. Et la théorie policière pendant des années disait que je m'étais fait ça tout seul en tombant sur un poteau. Et il a fallu attendre plus de 2 ans pour que l'instruction mette en examen un policier. Et du coup, j'espère une condamnation, évidemment. J'ai eu l'impression de devoir me battre pour avoir mon statut de victime. Aujourd'hui, il faut que ce soit matérialisé par une décision de justice, tout en sachant que ce qu'on m'a pris ce soir-là à Reims en 2016, quand j'avais 22 ans, on ne me le rendra jamais. Et ça, malheureusement, la justice ne pourra rien faire par rapport à ça.
C'était la panique cette nuit au Japon. Les sirènes ont retenti à Tokyo notamment. C'est la Corée du Sud qui a tiré un missile balistique au-dessus du Japon. Missile qui a survolé le pays avant de finir dans le Pacifique. Condamnation du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis cette nuit. La liste s'allonge. Il n'y aura pas d'écran géant pendant la Coupe du Monde de football à Paris à la fin de l'année. La capitale qui décide elle aussi de boycotter la compétition comme Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux. Et puis ce sera la loi du silence, si on peut dire ça comme ça, en fin de journée. Pour Marseille qui joue jouera à huis clos son troisième match de Ligue des Champions contre le Sporting Lisbonne. Les Marseillais punis après les incidents du mois dernier contre Francfort. Match à 18h45, horaire inhabituel sur RMC à la radio et RMC Sport 1 à la télé.
Le Quintet Quentin, c'est à Auteuil.
13h50 en début d'après-midi sur RMC Découverte. Voici ce matin les pronostics de la Dream Team. Le 7, le 3, le 7 en favori Iban Rock, le 3 en outsider Zaki.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 6h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Faut-il légaliser la consommation de cannabis pour enrayer la violence autour du trafic de drogue? C'est votre avis dans un instant. Appelez-nous pour débattre. De plus en plus d'élus locaux en font la demande. Et vous, qu'en pensez-vous? Le standard vous est ouvert. Je vous attends en direct.
RMC Police Justice.
Mais avant cela, c'est l'heure de l'histoire du jour repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Aujourd'hui, on vous raconte comment les gendarmes ont réussi à élucider le meurtre mystérieux d'une Française aux Pays-Bas, Guillaume Biais.
Oui, toute l'affaire a commencé par une énigme. Il y a 3 ans, au tout début de l'été, des policiers néerlandais enquêtent sur la découverte d'un corps non identifié, celui d'une femme, nue et ligotée, tuée d'une balle dans la tête. Analyse, appel à témoins, enquête de voisinage, impossible de mettre un nom sur la victime, jusqu'à l'an dernier, quand l'enquête rebondit de manière inattendue. Dans un petit village près de Dunkerque, les gendarmes du Nord sont appelés suite au décès naturel d'un homme de 70 ans. Mais ce qui intrigue les enquêteurs, c'est qu'il n'y a aucune trace de l'épouse du défunt. Or, ses papiers sont toujours là. Sa retraite aussi continue d'être versée sur le compte en banque du couple. Sur place, les gendarmes découvrent également un fusil auquel il manque des munitions. C'est l'échange d'informations avec les policiers néerlandais qui va permettre de résoudre l'affaire. Le fameux fusil est bien l'arme du crime et l'inconnue des Pays-Bas était l'épouse du septuagénaire dont l'ADN a été retrouvé sur les liens de sa femme. Le mari aurait donc tué sa compagne et déposé le corps à 500 km de chez lui. Puisqu'il est décédé, il n'y aura pas de procès. Juste la satisfaction pour les gendarmes et la justice d'avoir élucidé cette affaire.
Guillaume Biais, chef du service police-justice d'RMC.
RMC, 6h39.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h41 sur RMC.
C'est votre avis.
C'est votre avis et je l'attends sur cette question ce matin. Face aux violences et aux règlements de compte, est-ce qu'il faudrait légaliser la consommation de cannabis? De plus en plus d'élus et de tous bords estiment que c'est la solution pour mettre fin au trafic et à la délinquance, que le tout répressif, ça revient à vider l'océan à la petite cuillère. C'est le cas de Bertrand Kern, il est maire socialiste de Pantin, près de Paris. Il est confronté directement au problème de trafic de drogue.
Je suis pour la légalisation du cannabis parce que ça doit nous permettre d'apaiser nos villes qui sont gangrénées par ce trafic. La répression ne fonctionne pas. À partir du moment où la police nationale interpelle des trafiquants de cannabis, le lendemain, vous avez 3, 4, 5 personnes qui ont remplacé. Vous avez des pays comme les États-Unis qui comptent une quinzaine d'États qui ont légalisé le cannabis, où le trafic a chuté d'environ 70%. Et puis, au niveau sanitaire et social, ça permettrait quand même à l'État de bénéficier de recettes fiscales non négligeables. Avec 1 milliard d'euros, on peut faire une vraie politique de santé publique contre l'usage et la consommation des drogues.
Alors ça, c'était le point de vue d'un maire socialiste. Mais ce matin, Charles, vous aviez un maire Les Républicains qui était votre invité à 6h10.
Le maire de Charleville-Mézières.
Et qui tenait exactement le même discours. Donc c'est au-delà des clivages désormais.
Alors après, c'est pas tout le parti Les Républicains. Il reconnaissait lui-même que c'était iconoclaste au sein de son parti, mais il disait, j'ai envie d'être pragmatique, je pense à mes administrés. Il disait, certes, on a plus de forces de l'ordre. Il reconnaissait que Gérald Darmanin avait envoyé des policiers sur le terrain, mais il disait, j'aimerais que ces policiers fassent autre chose que courir après des petits trafiquants.
Et justement, vous savez quoi? Il y a Fabrice qui est avec nous, qui nous a appelé au 3216 et qui est précisément policier. Bonjour Fabrice.
Bonjour Pauline.
Fabrice, vous êtes au boulot là?
Oui, je suis au travail.
Bon, alors c'est parfait, justement, vous allez pouvoir nous parler un peu du point de vue. Vous êtes vous-même policier en Meurthe-et-Moselle, si je ne me trompe pas. Fabrice, cette question de légaliser ou non, vous êtes aux premières loges, vous les voyez les trafics, est-ce que ça fait partie de votre quotidien, devoir lutter contre ces trafics? Et est-ce que, comme le disait ce matin le maire LR, si on légalisait, dans un sens, ça vous libérerait pour faire d'autres choses?
Alors, c'est pas forcément si évident que ça, parce que... pour aujourd'hui. Quant à présent, lorsqu'on parle de trafic de cannabis et quand on parle de consommation de cannabis, oui, on va dire tout se mesure par rapport à la consommation et au nombre de consommateurs qu'on interpelle. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, il y a un faux débat qui est lancé là-dessus. Par exemple, moi je vois que l'action des services de police se dirige surtout vers les consommateurs. On multiplie les arrestations de consommateurs et on fait des élucidations faciles avec l'arrestation de consommateurs. Pour démanteler des points de deal, c'est beaucoup plus compliqué que ceci. Et moi, j'en veux pour preuve, on a démantelé un point de deal il y a environ une quinzaine de jours.
Oui.
Ce point de deal s'est complètement déplacé ailleurs. Le problème, c'est que le point de deal, il fait cannabis, il fait héroïne et il fait cocaïne. Oui. On n'est pas uniquement sur du cannabis. Le cannabis, on va dire, c'est la couche basse, c'est un petit peu quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout. Moi, je ne suis pas du tout convaincu qu'en autorisant aujourd'hui la consommation de cannabis, on ait moins de trafic, loin de là.
Je trouve ça très intéressant ce que vous dites, Fabrice. C'est vrai qu'on oublie un peu, quand les maires là parlent de légalisation, ils parlent évidemment de la légalisation du cannabis. Or, ce que vous nous dites, c'est que quand vous arrêtez un point de deal, ils vendent pas que du cannabis. Donc, si on enlevait la partie cannabis, le reste serait toujours là.
On va dire que les atteintes criminelles qu'on a derrière le trafic de stupéfiants concernent essentiellement les drogues dures, à savoir l'héroïne, la cocaïne, le cannabis. On en trouve un petit peu partout, effectivement. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a un produit qui n'est pas un produit de substitution, mais qui est censé calmer un petit peu les gens, qui est en vente légale, qui s'appelle le CBD. C'est pas pour autant que la vente de cannabis a réduit dans les quartiers. Dans les quartiers, par ailleurs, j'entendais un auditeur parler d'acheter la paix sociale. Vous savez, aujourd'hui, on a des jeunes qui, à 14 ans, commencent déjà à charbonner dans les quartiers. Ils sont là, ils font, alors, ils sont guetteurs, ensuite ils sont vendeurs, et puis à partir de 18 ans, ils sont déjà à la tête d'un micro-réseau. Et ça fait vivre des familles entières. Et quand ça fait vivre des familles entières, derrière, on voit bien que ça, quelque part, on achète un petit peu la paix sociale, parce que finalement, toutes ces familles-là n'ont, je ne dis pas de problème d'argent, mais en tout cas, les besoins...
Au fond, ça remplit un besoin presque de business économique d'un quartier, Charles.
On fait quoi alors, Fabrice? C'est des moyens qui vous manquent?
Exactement, ce sont des moyens qui nous manquent, parce qu'aujourd'hui, moi, je prends une unité de police comme la mienne, mon groupe stupéfiant, c'est deux personnes en frontière luxembourgeoise, en frontière belge. On a un trafic incessant. Quand je parle de trafic de stupéfiants, c'est pas uniquement
pour une zone géographique vaste.
Mon unité stupéfiant sur 45 000 habitants en frontière belge et luxembourgeoise, c'est deux policiers.
C'est saisissant. C'est vrai que quand on vous écoute, on se dit, mais alors c'est, je reprends l'expression, hein, on a l'impression quand même que vous videz l'océan à la petite cuillère. C'est-à-dire que quand vous dites on a réussi à fermer un point de deal il y a 15 jours, il a réapparu. En fait, c'est comme le phénix, il renaît de ses cendres un petit peu plus loin. Il y a pourtant, Fabrice, je vous sens assez déterminé. Vous n'êtes pas découragé.
Non, absolument pas. Vous ne trouverez jamais un policier découragé de lutter contre le trafic de stupéfiants, parce que de toute façon, nous, on est là pour ça, on fait notre travail, et on aime ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme d'hypocrisie dans ce débat-là. Je crois très sincèrement que vous savez, le démantèlement de points de deal. Quand on nous parle de points de deal, déjà, il y a toute une série de critères pour pouvoir établir qu'il y a point de deal, etc. Et on va dire qu'aujourd'hui, les délinquants, ils ont un temps d'avance sur nous. C'est que quand notre État décide de critères pour pouvoir considérer que tel endroit est un point de deal, d'accord, et ben on a des points de deal qui se reconstituent à gauche à droite dès qu'on en démantèle un.
Et ils vont réussir à changer de critères et à vous échapper d'une autre manière.
Ils changent de critères. Donc nous, voilà, encore une fois, l'État dispose de tas d'outils de mesure pour estimer que la consommation a augmenté ou a baissé, mais les outils de mesure, ils ne se basent que sur les consommateurs qu'on interpelle et non pas sur les trafics qu'on démantèle. Et je peux vous assurer que la drogue circule et circule vraiment très grandement sur le pays et génère derrière de la délinquance, parce qu'il y a une concurrence de clans, il y a une concurrence de bandes. En fin de compte, il y a une loi du marché.
Fabrice, merci de votre témoignage. Franchement, c'est passionnant en sortant de votre nuit. Fabrice, dites-nous juste d'un mot, par exemple, une nuit comme celle-là, qu'on se mette un peu dans votre peau. Une nuit comme celle que vous venez de passer, vous avez fait quoi?
Bah écoutez, on était en surveillance sur des cambrioleurs, on attend toujours qu'ils démarrent de chez eux, et on a découvert une personne décédée qui est certainement toxicomane.
Voilà la vie de Fabrice, policier donc en Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup Fabrice d'être passé par le 32-16 et bon repos à vous, bien mérité. 6h48, il y a Ali qui est également avec nous et qui nous appelle d'Orléans. Bonjour Ali.
Oui, allô, bonjour.
Ali, vous avez un autre point de vue, vous avez été dealer, c'est bien ça?
Oui, oui, consommateur et dealer, oui, tout à fait. Oui.
Consommateur et dealer, vous en parlez au passé?
Oui, oui, pour moi, c'est du passé. Maintenant, ça fait une dizaine d'années que j'ai arrêté de consommer. Et ouais. Ça fait plus de 24 ans que je ne fais plus de trafic. Et il faut savoir que j'ai 60 ans. Donc, d'accord. J'entendais, là, le policier, là, on a l'habitude de ce discours-là, de ce discours-là. C'est un discours répressif. Mais il va falloir se mettre à la page. Moi, je crois qu'il y a eu des grandes lois qui ont été votées. C'est l'abolition de la peine de mort, le mariage pour tous. Il va falloir mettre les pieds dans le plat. La légalisation du cannabis, qu'on le veuille ou pas, ça sera, ça va arriver, quoi. Il y a beaucoup de pays dans de par le monde qui l'ont fait. Les résultats sont là. Alors, on a Monsieur Darmanin, le va-t-en-guerre, homme politique, qui nous parle de points de deal qui sont démantelés, et on a des spécialistes derrière qui démentent carrément les informations. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que je veux pas être moralisateur, hein, mais il y a les consommateurs, la consommation récréative et la consommation pathologique. Il faut que le gouvernement mette en place des spots publicitaires, avertisse le citoyen des dangers de la drogue excessif. D'accord. Afin que les jeunes sachent.
Mais c'est un peu paradoxal, Ali. Ça veut dire que d'un côté, on dit c'est légal et de l'autre, on dit mais en même temps, c'est dangereux.
Oui, mais c'est comme tout. L'alcool, c'est dangereux, madame. Mais pourtant, il y a les vignerons.
Et pourtant, c'est légal, tout à fait.
Fabrique. D'accord. Maintenant, les jeunes, faut bien, avant qu'ils mettent les pieds là-dedans, faut bien les avertir que si c'est récréatif, ça peut aller. Mais dans la mesure où ça devient une consommation pathologique, c'est qu'il y a des problèmes derrière. C'est qu'il y a des problèmes.
Comment vous avez fait, vous? Vous dites, j'en parle au passé, vous avez été dealer, ensuite vous avez, enfin, et consommateur. Comment vous faites un jour pour vous dire, je vais sortir de ça?
Mais moi, j'ai été trafiquant jusqu'à l'âge de mes 39 ans, j'ai fait plusieurs années de prison, et à un moment, je me suis rendu compte que je perdais des années en prison pour rien, quoi. J'étais en train de gâcher ma vie, que mes plus belles années, moi, je les ai passées entre quatre murs. J'ai pas vu mes enfants grandir, j'ai raté plein de choses essentielles dans la vie, et à un moment, je me suis dit, soit tu continues sur cette voie-là, soit tu lâches l'affaire, quoi. Donc, j'ai lâché l'affaire. Moi, je veux pas être moralisateur, hein. Les jeunes qui se lancent leur business, il faut que vous sachiez, à la fin, c'est des années de prison qui vous attendent. Vous n'allez pas gagner d'argent. Vous allez gagner de l'argent, mais c'est de l'argent éphémère. Vous construisez des châteaux en Espagne. Tout va s'écrouler. Vous allez finir entre quatre murs. Voilà. Maintenant, chacun prend ses responsabilités. Moi, je pense que M. Darmanin, là, le gouvernement, on avait le maire de Charleville. Je connais très bien Charleville, moi. J'y ai habité pendant 40 ans. C'est là-haut que je faisais mon business. On est à 1h30 de Maastricht. Maastricht, c'est une plaque tournante en Hollande. Vous avez 1h30 de voyage aller et retour, ça fait 3 heures. C'est comme si vous alliez dans un supermarché, quoi. Il y a tout ce que vous voulez là-haut. Donc maintenant, il faut ouvrir les yeux et se dire, il y a des lois qui ont été votées contre la peine de mort, contre le mariage pour tous.
Et pour vous, celle-là, elle arrivera et elle suivra les autres. Ali, franchement, je trouve, entre votre témoignage et celui du policier, on aurait eu les deux bouts de la chaîne, mais Ali, merci infiniment aussi pour votre témoignage ce matin, et vous êtes adressé directement à ceux qui écoutent et qui pourraient être tentés à la fois par la consommation et par le deal, puisque vous dites vous-même, j'ai gâché mes plus belles années, que j'ai dû passer entre quatre murs, et c'est quand même comme ça que ça se termine. Donc Ali, vous-même qui en êtes sorti, merci d'être venu témoigner ce matin, franchement, sur RMC, quand on a à la fois le policier et celui qui est sorti de prison. Je trouve que c'est une grande fierté ce matin, avec Apolline Matin, de pouvoir vous entendre et vous donner la parole. Il est 6h51.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, le portrait du jour, Nicolas.
Et ce sera Ramzan Kadyrov, le dictateur tchétchène qui appelle Vladimir Poutine à utiliser l'arme nucléaire.
Et vous, Charles ?
Eh bien, dans mes histoires, on va parler de votre très mauvaise habitude le matin dans votre lit.
Ah, tout de suite.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Et bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC, il est 6h53, je vous donne la suite de la matinale, 7h40. Ne manquez pas l'interview de l'immunologue Brigitte Autran, c'est elle qui est à la tête du nouveau comité scientifique, après le professeur Delfrécy, c'est elle donc qui surveille l'épidémie de Covid. 8e vague, vaccination, respect des gestes barrières à l'arrivée de l'hiver. Toutes vos questions, vous venez interpeller la nouvelle présidente du conseil du comité scientifique. Vous connaissez le chemin, c'est le 32-16. Notez également qu'à 8h30, mon invité sur RMC et BFM TV, ce sera Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, il y a Arnaud Demange qui sera là, 7h20, 8h20.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Ramzan Kadyrov. C'est le dictateur tchétchène qui appelle Vladimir Poutine à utiliser l'arme nucléaire.
Oui, Ramzan Kadyrov voudrait que l'armée russe utilise des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine pour montrer, je cite, que l'on ne s'amuse plus, qu'on a fini de jouer, parce qu'il ne supporte pas en réalité les reculs récents de l'armée russe. Il fustige les erreurs des généraux et pour donner l'exemple, il annonce qu'il va envoyer sur le front en première ligne trois de ses enfants qui sont âgés de 14, 15 et 16 ans, trois adolescents parmi les 12 enfants qu'il a officiellement. Le porte-parole du Kremlin s'est voulu rassurant sur cette menace d'utilisation des armes nucléaires. Il a précisé que Kadyrov parlait sous le coup de l'émotion, sous-entendu, il ne faut pas trop le prendre au sérieux.
Kadyrov qui a un statut très particulier.
Oui, il a été nommé par Vladimir Poutine, président de la Tchétchénie, qui est une région de Russie, mais il y fait en réalité ce qu'il veut. Il n'applique pas les lois russes, mais les siennes. En l'occurrence, la charia, l'obligation de porter le voile, l'interdiction de l'homosexualité. Kadyrov était le fils d'un président dirigeant tchétchène qui a été assassiné, qui s'était rallié à la Russie. Le fils s'est révélé pire que le père. On lui attribue des assassinats d'opposants réfugiés à l'étranger. Par exemple, Imran Aliyev poignardé dans sa chambre d'hôtel à Lille, en France. Kadyrov aime bien poser pour des photos dans sa maison avec ses armes à la main, avec ses tigres à ses pieds et avec des personnalités. Par exemple, Gérard Depardieu qui s'est à plusieurs reprises prêté au jeu.
À plusieurs reprises avec un personnage aussi sympathique, mais dis donc. Allez, 6h55.
Les histoires de Charles.
Et là, Charles, je crois que vous nous emmenez dans un tout autre univers, c'est-à-dire la chambre à coucher.
Oui.
Et la science qui nous apprend ce qu'il ne faut pas faire dans son lit le matin.
Non, qu'il ne faut pas faire son lit le matin. C'est ça qu'il faut retenir à Pauline. Pour le reste, je vous laisserai dérouler une autre chronique. Moi, je vais vous parler de faire votre lit à Pauline. Pourtant, c'est ce que nos parents nous ont rabâché depuis qu'on est tout petit. Mais si, mais ça venait du cœur, on l'entend bien. Si l'on en croit cette étude repérée par Slate, c'est un très mauvais réflexe de faire son lit le matin quand on se réveille. En fait, quand vous faites votre lit juste après votre réveil, vous le transformez en nid à acariens. Oui. En moyenne, un lit contient plus d'un million d'acariens qui adorent les endroits sombres et se nourrissent des cellules mortes de votre peau. Et surtout, en s'accumulant, ils vont parfois déclencher des allergies, de l'asthme. Or, lorsque vous remettez bien la couette, les draps, dès que vous vous levez,
on leur recrée un petit nid.
Exactement, vous créez le climat idéal pour que ces petites bêtes prolifèrent et se reproduisent. Alors que si vous laissez votre lit défait, la lumière du jour, la température ambiante vont tuer ces acariens. Il est donc fortement recommandé d'attendre quelques minutes, voire quelques heures après votre réveil pour faire votre lit. Et puis tant qu'à faire, lavez vos draps aussi régulièrement.
Oui, c'est pas mal ça comme idée aussi.
Mais attention, pas de sèche-linge. Sinon vous allez
se faire gronder par
Gilles Legendre. Les bons réflexes à adopter.
Peut-être secouer sa couette à l'extérieur. Non,
oui,
ça
éventuellement,
fait pas partie de l'étude.
Ça ne fait pas partie de l'étude.
D'accord. Ouvrir sa fenêtre aussi, peut-être.
On recommande le petit coup d'aspirateur.
Les voisins qui mettent les couettes à la fenêtre, on en parle aussi.
C'est pas mal, moi, je trouve ça, non? Non, ça vous plaît pas, ça, Emmanuel?
Ouais, non.
C'est quand même très hygiénique.
Tous les matins, faire sortir sa couette et tout.
Non, c'est pas un chien, quoi.
Chacun ses combats.
Il y a vraiment des combats qui sont menés ce matin. Il est 6h57. Vous restez avec nous dans un instant. La météo et le journal, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.